C'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du Pepsi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du Pepsi Apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 122e numéro de l'Instant Sport. Et oui, c'est Julien et aujourd'hui, j'honore ma deuxième titularisation, la première après celle d'octobre 2018. Puisque suite à l'élimination de Montpellier en Coupe de France la semaine dernière et le 0-0 à Rennes, Ludo avait un peu besoin de souffler pour revenir en pleine forme la semaine prochaine. Allez, on va commencer avec la présentation des équipes, avec tout d'abord Laurent Julien. Laurent, bonjour.
Oui, salut, bonjour tout le monde.
Ça va, bon week-end.
Ça va, ouais, nickel.
Bon, tant mieux. Mm-hmm. Nicolas Thomas est là également, bonjour Nico.
Salut tout le monde.
Bon week-end pour les féminines.
Ouais, bon week-end pour les filles. Et puis je vois que tu as deux fois plus de titularisation à 48FM cette année qu'en réserve de la FL. Je te félicite.
Vrai. Merci. C'est vrai, c'est une vraie stat. On y reviendra après sur les féminines. Et enfin, Patrick Biancon est là. Bonjour Patrick.
Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Et Laurent a eu un peu de mal à se concentrer avant le début de l'émission, mais maintenant ça va mieux. Donc on va pouvoir dérouler le... les commentaires des différents sports comme d'habitude. Ouais.
Allez, ben on va commencer du coup ce nouveau numéro de l'Instant Sport avec le volley et le MVL qui se déplaçait à Paris pour la 13e journée de la Ligue B. Ça s'est terminé par une défaite assez logique sur le score sec de 3-7-0, 25-15, 26-24, 25-19. Arrête de faire n'importe quoi Laurent, ça vient juste d'attaquer. Au niveau des stats pour les joueurs du MVL, Mineiro inscrit 12 points, Alphonse 9, Carbo à 8. Avant de parler un peu plus en détail de ce match, Nico, tu as les autres résultats de la journée?
Bien sûr. Donc Nancy qui est allé s'imposer 3-0 donc, contre le Pôle France 2024.
Ils reviennent bien Nancy là. Deuxième victoire d'affilée
après avoir battu Bémande, c'est ça?
Oui, 3-1. Ouais.
Saint-Jean-Didac qui s'est imposé 3-0 à domicile contre Saint-Quentin. Saint-Nazaire qui va gagner 3-2 à Martigues, donc Paris, on vient de le dire, qui gagne 3-0 à la maison contre Mende. Cambrai qui va gagner 3-2 à Fréjus et le Plessis-Robinson qui est allé gagner 3-1 à Avignon.
Du coup, quand on se déplace à Paris, bon, c'est pas là finalement qu'on espère prendre des points face à l'ogre parisien, mais c'est jamais agréable de prendre 3-7-0 pour la confiance des joueurs. Patrick, est-ce que tu en sais un peu plus sur ce match?
Oui, il y a un point à de suite signaler, c'est que Rangel, le Brésilien, qui a remplacé Ninao, a fait le déplacement, mais il n'est pas entré sur le parquet. Blessure au dos depuis une grosse semaine. Donc Constant n'a pris aucun risque. Donc ce qui fait un titulaire en moins aligné d'entrée. Face à Paris, c'est vrai que ça c'était compliqué dans cette salle Charpie quand même qui est chargée d'histoire. Donc on attendait un miracle ou un exploit. Il n'a pas eu lieu. Bon, c'est logique, il y a un deuxième set accroché, sinon après un début de premier set cataclysmal, et donc une grosse défaite au premier set, troisième set aussi assez compliqué. Mais bon, il faudra retenir ce deuxième set. Bon, au final, c'est vrai que quand tu te déplaces à Paris, vu la position qu'on occupe, bon, c'est pas là-dessus que ça se joue, et en espérant que surtout Rangel sera à 100% pour ce week-end.
Un peu comme au match aller, finalement, Mende avait existé un 7 et demi, et puis finalement, il y a trop d'écart de niveau.
Il y avait même eu 2-7, puisque ça s'était terminé deux fois à 26-24. Et sur les 2-7, il y en a au moins un qui aurait dû tomber dans l'escarcelle de Mende. Bon, là, au match retour, ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, on se rend compte, on parlait du classement, on se rend compte qu'il y a 5 équipes qui sont vraiment, bon, qui ont fait le trou. Et donc après, ben, ça va se jouer, bon, France 24 va finir dernier, que des matchs perdus depuis le début. Donc ben, ça se enlève 5 équipes, plus une, donc ça fait 6. Donc il en reste 6. Et donc voilà, on est dans ce peloton de 6 équipes. Il faudra
qui
bien sûr.
Avignon,
voilà, c'est ça.
Féliciter. Il y a Avignon et Fréjus
oui.
Qui ont 17 points.
C'est ça.
Saint-Jean-d'Illac qui en a 16. Mende qui en a 15. Et ensuite Nancy et Saint-Quentin qui ont 14 points.
Oui, voilà. Donc il y a juste Nancy
un point de. L'avance sur les
pas,
deux.
Pas enterré, Nancy, mais qui était mal en point. Et puis finalement, la victoire la semaine dernière contre Mende.
Deux fois, contre CNVB, deux fois trois points.
Ça fait six points d'un coup. Et finalement, il recolle à un petit point de Mende.
C'est ça. Donc, on se retrouve finalement à un point de la descente. Puisque, rappelons-le, France 2024 ne descend pas. Donc, ça sera l'avant-dernier qui sera relégué. Donc, on est à un point de bonus. Mais on n'est qu'à deux points aussi d'Avignon, donc, qui est sixième. Avignon qu'on reçoit ce week-end pour un match hyper important, victoire indispensable. D'ailleurs, si on les bat 3-0 ou 3-1, on passera devant eux. Donc, toute l'importance de ce match. On est un peu dans le dur en cette reprise de 2019. Mais bon, on sait que c'est compliqué d'enchaîner les matchs week-end sur week-end. Puis peut-être que la coupure, finalement, nous a fait du mal, puisqu'on restait sur de bons matchs, une victoire à Saint-Nazaire et un 3-2 à domicile contre Plessis-Robinson. Donc, cette coupure, finalement, de Noël nous a fait plus de mal que de bien.
On évoque souvent dans cette émission l'équipe d'Avignon qui choisit ses matchs. On imagine que celui de samedi à Mende, il sera choisi, mais pour le gagner.
Mais ils ont dû le cocher.
Ouais. Ouais. Donc, bien évidemment, j'ai quelques infos sur ce match. Et Avignon, bien évidemment, va arriver à fond les ballons pour gagner ce match contre Mende. On se souvient que, d'après ce qu'on a pu entendre, certainement que Mende a fait son plus mauvais match depuis le début de la saison lors du match aller à Avignon. Un 3-0 vraiment sur des scores secs. Donc une belle revanche à prendre. Et donc Avignon qui sera super motivé. Il y a tout pour faire un gros match à 20h30 au Biencourt.
Nos joueurs seront aussi extrêmement motivés. Donc
tout à fait. C'est exactement ça. Donc un gros match en perspective au Biencourt à ne pas manquer.
En espérant que le coach puisse se retrouver tout. Bien sûr.
Oui, justement. Est-ce que.
T'as des échos ?
Oui, Lucas Rangel, est-ce qu'il peut être établi ou...
À mon avis, il jouera. C'est pour ça que Costan l'a laissé sur le banc de touche pendant tout le match. Après, est-ce qu'il sera à 100% ? On peut se poser la question, mais je pense qu'on pourrait quand même voir un Rangel quand même à 60, 70, 80%, ce qui serait déjà pas mal pour ce match capital.
Nico, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, c'était plus une question pour les spécialistes de volley. Ouais, le match est important et d'autant plus important par rapport à ce que disait Lolo, le réveil de Nancy. C'est vrai qu'ils sont sur deux matchs de victoire. Ça avait été annoncé quand même comme un gros du championnat.
Oui, tout à fait.
Donc il faut peut-être se méfier de cette équipe qu'on avait enterrée un peu vite et qui avait des ambitions au début et qui peut-être peut faire une deuxième partie de saison qui ne sera peut-être pas à notre portée à nous. Donc d'autres. Ce qui rend le match de ce week-end d'autant plus important. Quoi.
Tu as raison de.
Peut-être qu'ils ont recruté cet hiver aussi, mais sinon.
Ouais, j'ai pas d'infos, pas certain. Mais c'est vrai qu'il faut. Il faut réenclencher la dynamique en 2019. Sur les points, il n'y a pas un nombre de victoires, mais Mende est l'équipe qui a gagné le moins de matchs. Bon, je mets bien sûr les jeunes de côté. Mais quand tu regardes le nombre de matchs gagnés et le nombre de matchs perdus, on est l'équipe qui a le moins gagné de matchs. Heureusement qu'on a eu des 3-2, des défaites 3-2, ça te fait marquer un point. Donc c'est pour ça qu'on est au-dessus d'équipes comme Saint-Quentin. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est devant des équipes comme Saint-Quentin et Nancy qui, pourtant, ont gagné un match de plus que nous.
Et tu disais tout à l'heure qu'on était finalement qu'à un point de la descente, mais quand on avait reçu Constant dans cette émission, on avait évoqué peut-être la huitième place. On est aussi qu'à un point de cette huitième place.
C'est ça.
Donc, c'est très serré, que ce soit devant et derrière.
Il y a ce peloton de six équipes.
Deux points de la sixième.
Ça va se jouer. Donc sur ces six équipes, il y en a trois qui feront les play-offs. Deux qui auront terminé leur saison après la fin de la saison régulière, et puis un qui devrait descendre, mais d'après les bruits qu'il y a, c'est pas sûr qu'il ne descende, mais il vaut mieux quand même assurer le coup et ne pas finir avant-dernier.
Ça peut changer,
c'est ça.
Entre le 1er et le 2 février.
Si vous avez suivi, là, il y a quelques semaines, il y a Cannes qui est en Ligue A qui financièrement quasiment à l'agonie, qui a été sanctionnée par la DNACG, qui ne sait pas trop comment elle va faire la saison prochaine s'il n'y a pas des sponsors qui viennent mettre des sous. Donc on se rend compte qu'il y a quand même tout un tas de clubs qui sont, comme chaque saison, j'allais dire, en grand danger au niveau financier.
Puis finalement, le début d'année civile 2019 est un peu compliqué, mais il y a aussi eu deux déplacements. On peut imaginer peut-être qu'avec le retour à domicile au gymnase Piancourt, ça peut aussi permettre aux joueurs de Constant de remontrer que Piancourt peut être une forteresse imprenable, on l'espère.
Doit être.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur ce championnat de Ligue B? C'est vrai que c'est assez difficile de parler des matchs des fois qu'on ne peut pas voir.
C'est clair.
Fait des retours un petit peu rapides. Du coup, s'il y a pas plus à dire, on va pouvoir parler de la réserve, puisqu'elle jouait également ce week-end face à un mal classé, Montpellier Croix d'Argent. Et la semaine dernière, j'avais annoncé que ça devait être une formalité. Donc, monsieur Laurent Julien m'avait dit qu'en cas de défaite du MVL, on devait ressortir les bandes. Donc, on n'aura pas besoin de les ressortir, puisque les joueurs de Sofiane Cadour se sont imposés 3-7-0, 25-22, 25-17, 25-21.
Donc, et presque une formalité.
Presque une formalité. Et au classement, du coup, le MVL est deuxième à 4 points du leader l'ASBAM. La semaine prochaine, déplacement à Roubia, qui est un mal classé de ce championnat.
Il n'y a que des mal classés, en fait.
Mais il y avait le match au sommet.
C'est le bon calendrier, c'est le bon moment.
Il y avait le match au sommet, justement, entre l'ASBAM et 7 volleyball. Donc, le premier contre le troisième. Et donc, l'ASBAM reste invaincu, mais n'a gagné que 3-7-2. Donc, mais ça, d'un côté, ça permet aussi au MVL de gratter un point, même deux, puisqu'on a gagné par rapport à cette volleyball. Donc il n'y a marqué qu'un point, et nous trois, donc on reprend deux points.
Ils auraient eu qu'un point de plus.
Ouais.
La R1 féminine, elle aussi a réalisé une belle opération ce week-end, puisqu'elles se sont imposées 3-7-2 à 7. Alors le score 22-25, 25-22, 25-23, 21-25 et 15-8 pour le MVL au tie-break. Du coup, grâce à cette victoire, les féminines du MVL sortent de la zone de relégation. Et la semaine prochaine, déplacement à Moggio, qui est juste devant cette équipe du MVL au classement. Du coup, on passe au hand maintenant.
Il y avait les jeunes aussi qui faisaient la Coupe de France. La jeune équipe de Jean-Michel Lebar, donc je crois que c'est les M17, et donc ils avaient fort à faire, puisqu'il y a trois équipes, on le sait, en Coupe de France, et donc là c'était à Toulouse, donc je crois qu'il y avait le club de Montpellier, mais pas le Montpellier qui joue un club de jeunes, là. Je ne sais plus lequel c'est, et donc qui est tout le temps en finale en principe, donc c'était mission impossible, et donc tout se jouait contre Toulouse, et bon, Toulouse qui joue en Liga, nous n'oublions pas également, et donc défaite aussi, mais un parcours quand même plein de qualité de cette équipe, de cette jeune équipe de Jean-Michel Lebar.
Ok, merci Patrick pour les infos des jeunes, c'est toujours bien d'en parler. Allez, on passe au hand maintenant, et le MGC qui a connu un très beau week-end avec ses équipes seniors, puisque les garçons et les filles se sont imposés tous les deux. On va commencer avec les seniors garçons, puisqu'ils sont engagés dans la course au maintien, dans cette phase de play-down. Le MGC a gagné 25-24 à Aramont, une victoire donc qui permet de commencer idéalement. Laurent, toi qui es le monsieur handball de l'émission, c'est un très bon résultat d'aller gagner 25-24.
De toute façon, de gagner un match quand on n'a pas beaucoup gagné depuis le début de la saison, c'est toujours une bonne nouvelle.
Surtout après la défaite en Coupe de France.
Le week-end d'avant. Et là, donc, à Ramon, dans le Gard, c'est toujours compliqué d'aller s'imposer. Et donc, les garçons l'ont fait 25-24, seulement un point. Mais avec seulement 24 buts encaissés, très belle défense de nos garçons. Et donc, c'est bien, c'est de bon augure parce que il faut le rappeler que c'est les play-downs et donc du coup la possibilité de descendre encore d'un échelon, ce qui serait le deuxième en deux ans. Et donc ce serait dramatique. Donc du coup les garçons ont certainement pris conscience. Et puis il faut rappeler que c'est une jeune équipe, donc ils ont petit à petit, ils trouvent des automatismes. Ça commence à payer, donc il va falloir bonifier cette victoire le prochain match à domicile.
Combien d'équipes descendent déjà là, sur ces 6 équipes de play-down?
Le dernier sûr et certain, parce qu'il y a deux poules de play-down, donc les deux derniers sûr et certain, et après ça dépend du nombre de descentes de N3, donc de la région Occitanie. Donc a priori, il y a Prades-le-Lez qui est mal classé, donc qui risque de descendre. Donc il se peut qu'il y ait un barrage en match aller-retour entre les deux avant-derniers. Donc, d'après ce que j'ai compris, mais ça reste quand même à vérifier, il vaut mieux éviter les deux dernières places. pour être sûr et certain de se maintenir à ce niveau. D'où l'importance de ce premier match de play-down où toutes les équipes avaient les compteurs remis à zéro. Et donc, victoire à l'extérieur. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu un match complètement fou, même ahurissant, avec un Gaëtan Roche digne de Vincent Gérard actuellement au championnat du monde de hand en Allemagne. Et puis, surtout, un scénario où le MGC a quasiment mené tout le match. Et puis, il y a eu une avalanche de pénalités où même l'entraîneur roumain du MGC a perdu son calme et a pris lui-même 2 minutes, donc ce qui veut dire que c'est un joueur qui sort, et donc ça a permis à Ramon de faire le trou à 23-20. Donc après il y a eu dans les 5 dernières minutes, dans les 5-10 dernières minutes, une réaction hallucinante du MGC puisque le score est de 25-24, donc ça veut dire que le MGC a mis un 5-1 dans les 5-10 dernières minutes, donc pour arracher cette victoire sur le fil. Et donc chapeau à cette équipe, avec toujours un Robin Bartholomé hyper efficace à la marque, et le jeune Valentin Molinier, d'après ce qu'on m'a dit, qui a su tirer son épingle du jeu et qui a lui aussi bien épaulé Robin au nombre de buts marqués. Donc chapeau à cette équipe qui enclenche bien ses play-downs. Et donc il faudra confirmer, là aussi samedi, donc en même temps que le volet, il faudra faire un choix 20h30 à la Vernède contre Prades Le Lez. Donc là, l'équipe réserve. Et donc cette équipe de Prades qui a perdu d'un seul but, elle aussi. Donc tous les matchs, c'est des matchs au couteau pour se maintenir.
En espérant que le coach ne reprenne pas 2 minutes à chaque match, parce qu'on voit la difficulté que ça procure par la suite. Voilà, j'espère qu'il en aura tenu rigueur aussi.
Bon, en tout cas, la réaction, là, comme tu disais, Patrick, là, d'être mené 23-20 et de s'imposer 25-24, je pense que ça veut quand même dire que les joueurs du MGC sont complètement habités par cette notion de vraiment maintenir le club. Parce que faire 2 descentes d'affilée, c'est vrai que ce serait un peu cauchemardesque pour le club. Mm. Du coup, c'était juste la première journée de cette phase de play-down. Donc, le MGC a 3 points comme Cahors et Marguerite, qui se sont imposés contre Rodez et Prades Le Lez. Et donc, tu le disais, Patrick, réception à 20h30 ce samedi à la Vernède de l'équipe de Prades Le Lez. Et ce serait bien de gagner, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs à domicile, il n'y a pas eu trop de victoires. Donc, compter sur le soutien des supporters et d'une Vernède pleine, ça ferait du bien.
Je pense qu'en première phase, il n'y a eu qu'une seule victoire. Puisqu'il y a eu un match nul, je pense qu'il y a eu une seule victoire sur ces matchs de première phase. Donc on se rend compte de l'importance de ce match. En plus, Aramon avait fini 4e de sa poule, donc avait failli faire les play-offs. Donc on se rend compte qu'il y a une sacrée performance de la part du MGC de s'imposer à l'extérieur.
Puis là, la différence de la première phase, c'est vrai qu'ils vont affronter à la fois des équipes plus aveyronnaises et là un peu plus gardoises, ça va amener un autre mélange, donc en espérant que ça leur profite. Les féminines, elles, sont en play-off et visent donc la montée en N3. Et très bon résultat pour elles aussi ce week-end, puisqu'elles se sont imposées 22-16 à Montauban lors de la première journée en play-off. Alors pour les garçons, le classement est remis à 0 points au début. Par contre, pour les filles, on garde les points qui étaient acquis lors de la première phase.
C'est ça.
Du coup, Nico, est-ce que tu peux nous dire ce que ça donne au niveau du classement de ces play-offs ?
Donc, carrément en tête avec Tournefeuille, les 2 équipes à 9 points, suivies de Lourdes 6 points. Après, on a un peloton de 4 équipes auxquelles fait partie Mende. Donc, Montauban, Les Vézoux, Mende et Muret à 5 points et Castelnaudary qui ferme la marche à 4 points.
Voilà, donc cette équipe de Mende qui était derrière Montauban, donc allait s'imposer de plus 6 à l'extérieur, ça donne le ton là aussi pour le reste de la saison.
Oui, parce que Montauban avait fini premier dans son autre poule, et donc elles ont dû être surprises par nos jeunes mendoises. Surprise pas tout de suite, parce que le match avait très mal débuté pour nos mendoises, avec un 4 ou un 5-0, je sais plus, d'entrée de match. Et puis après, elles ont décidé de fermer les portes. Hein. Donc, elles reviennent au forceps à la mi-temps. Et une deuxième mi-temps fabuleuse, puisqu'elles ne prennent que 4 buts en deuxième mi-temps. Donc, j'ai pu en discuter avec la gardienne Laurie Grousset, qui félicite tout le travail défensif que ses copines ont pu réaliser. Et puis, voilà, les ailières qui ont marqué les buts qu'il fallait. Donc bravo aux filles qui, malgré le classement,
jouent encore la montée. Elles y croient. Donc voilà, donc c'est bien qu'elles continuent à prendre du plaisir et puis à en donner aussi aux spectateurs qui vont venir les encourager pour le prochain match.
Du coup, un peu même question que pour les garçons, là, au niveau des montées, ouais. Est-ce que c'est que
alors la première équipe ? Ouais, non, j'ai un peu regardé, alors là aussi, c'est à confirmer, parce que bon, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, j'ai étudié un peu ces règlements. A priori, on m'a dit qu'il pourrait y avoir trois montées. Donc ça dépend aussi là, des descentes de 1-3, c'est comme pour les garçons. Mais deux montées, d'après ce que j'ai compris, deux montées sûres, et donc, s'il n'y a pas énormément de descentes, on peut même passer à trois montées. Donc, l'importance,
donc ouais, point de
voilà, montée. C'est ça, exactement.
Il y a Lourdes qui a seulement un point de plus.
Donc, il y a deux équipes qui paraissent au-dessus, mais encore, on a vu à Ramon, il y a certes deux défaites du MGC en première phase, mais on ne peut pas dire que ça a été des cartons, ça a été des matchs à chaque fois hyper serrés contre Ramon.
Ce classement ne tient à pas grand-chose parce qu'au final, au match aller, au match retour, Amand contre Ramon, il n'y avait pas eu photo, oui. Ramon avait été largement supérieur. Mais par contre, au match aller, ça s'était un peu mal goupillé puisque les féminines étaient descendues qu'à 8 joueuses. Et il n'y avait pas eu la présence de l'arbitre, donc il y a une règle qui dit pile ou face. L'équipe qui gagne fait l'arbitrage, donc il y a une joueuse qui fait l'arbitrage. Et du coup, de ce fait, il y a l'adversaire qui enlève une joueuse. Donc elles étaient déjà que 8. Elles avaient enlevé Oran, l'ailière gauche, sur ce match. Et donc elles avaient perdu, parce que physiquement, ce n'est pas évident de jouer un match... Et donc, du coup, quand on regarde le classement maintenant, ça pourrait être autrement, quoi. Si les dés n'avaient pas été un petit peu faussés par ce match.
Voilà. On parlait de Laurie Grousset, il faut quand même aussi elle la féliciter, puisqu'elle a quand même fait 15 arrêts. Donc, c'est plutôt pas mal.
Je la félicite, mais je te dis, c'est un discours qu'elle m'a dit hier. Et elle voulait très humblement féliciter et remercier ses copines.
Et 10 buts pour Charlotte Roux.
Non mais c'est vrai que 4 buts en demi-heure, c'est une performance totalement hallucinante, hein, et ça prouve, ça prouve toute la remise en question dans les vestiaires, et donc cette volonté de faire voir que certes on commençait la deuxième phase avec 0 points, mais que ça va, qu'on va aller mieux que ce classement, et donc il y a un match énorme, hein, enlevé de rideau des garçons. Ce samedi, puisque c'est Tournefeuille qui vient à la Vernède, donc Tournefeuille premier. Premier au classement, ex aequo et Caramon. Donc on imagine tous les bienfaits d'une victoire. Donc avec deux ou trois montées, match au sommet pour les filles. Et c'est vrai qu'on y croit.
Ouais, de toute façon, là, en étant sur une phase de play-off, il n'y a que des matchs au sommet. Quoi.
Si
elles veulent monter.
Et puis il n'y a que des matchs au sommet sans pression, finalement. Parce que bon, si elles montent en National 3, c'est super. Si elles n'y montent pas. C'est pas non plus dramatique, c'est pas comme si tu joues ta survie pour ne pas descendre quand tu fais des play-downs.
C'est vrai que c'est une phase
où... Donc c'est que ouais. Du plaisir à prendre, quoi, des bons matchs.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est dit dans le vestiaire. Hein,
c'est possible.
À la mi-temps,
j'ai pas eu le droit d'aller dans les vestiaires.
Dans le vestiaire, donc, d'accord. Du coup, voilà pour le MGC. Un mot maintenant sur le handball Nord-Lozère. Donc les seniors filles départementales se sont imposées 29-14 contre Chaudes-Aigues. L'après-national ne jouait pas. Et les seniors garçons, donc avec une équipe hybride composée de joueurs de l'équipe 2 et de l'équipe 1, s'est incliné 29-26 à Pierrefort. Donc il y aura peut-être des regrets suite à la première mi-temps, puisque l'équipe du Handball Nord-Lozère était menée 16-9. Donc une très grosse deuxième mi-temps, mais malheureusement, en étant menée de 7 buts à la mi-temps, le mal était un petit peu fait pour les joueurs de Maxime André.
Et pour au niveau de l'agenda, ce week-end, la Prénat fille... va jouer un gros match, encore un gros match, puisqu'elles sont premières, donc elles sont attendues partout, à Issoire. Donc voilà.
Et Julien, ton portable va chauffer parce que tu dis handball. Alors que voilà, c'est handball, tu sais que c'est les Allemands qui ont créé ce sport. Voilà, le football parce que c'est les Anglais, mais le volleyball parce que aussi, le basketball aussi, mais le handball parce que c'est les Allemands qui ont créé ce sport.
Mauvais réflexe. On passe au rugby, le RCML qui s'est incliné 31-15 contre Moggio à domicile. La semaine dernière, on avait dit que le RCML allait enchaîner quelques matchs à domicile. Ça s'est pas très bien passé pour ce week-end. Patrick, est-ce que tu sais où ça en est du coup au niveau du classement pour cette équipe du RCML ?
Oui, j'étais au match dimanche. Donc le classement, c'était le match de la peur, puisque Moggio était dernier et Mande avant-dernier. Donc avec cette victoire de Moggio, c'est Moggio qui passe devant. Même il double Saint-Gély puisque Pic Saint-Loup puisqu'ils étaient exempts, donc il n'y avait pas de match. Et donc Mende se retrouve bon dernier de ce championnat. Avec l'inquiétude que ça entraîne, puisque là aussi j'ai étudié un peu ce règlement. Il va y avoir une refonte totale de la division d'honneur au niveau de l'Occitanie la saison prochaine. Il y avait 5 poules cette année, il y en aura beaucoup moins la saison prochaine. Donc il y a au moins 2 clubs qui vont descendre. Voilà, très mauvais dimanche du RCML, qui a commencé ce match totalement à l'envers. C'était même, je sais pas, j'allais dire pathétique, mais c'est vrai, on n'a pas compris. On a vu ce club contre 7 qui a atomisé cette équipe 7 de Sétoise, qui est quand même dans les 3-4 premiers. Et donc là, on attendait la même intensité d'entrée de match. Et puis au contraire, c'est Moggio qui a marqué les essais. Donc il y avait rapidement 20-0. Et puis après, quand ça ne veut pas aller, ça ne va pas. L'arbitre a totalement pris en grippe les joueurs du RCML. Et donc ça veut dire des cartons à gogo, des pénalités à gogo. Et donc 2 cartons rouges pour Mende. Le premier est justifié, c'est un mauvais geste. Mais le second, j'ai jamais vu ça. Le capitaine demande qui s'approche de l'arbitre pour demander des explications. Et l'arbitre qui refuse tout dialogue, qui lui met un carton jaune. Et comme c'était son second, mais ça fait carton rouge. Donc ça, j'avoue qu'un capitaine expulsé parce qu'il vient demander des explications à un arbitre, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, pour pas dire jamais vu. Mais bon, il y a autre chose. Il y a eu un début de match raté, puis ça empêchait la réaction. Il y a eu quand même une réaction des Mandois et ça a été freiné totalement par l'arbitre.
Combien il reste de matchs là pour essayer de renverser la situation ?
Donc là, le RCML a joué son 12e match. Donc il y a quoi ? Il y a 8 et 8, 16. Il doit rester 4 matchs. Donc c'est chaud. C'est chaud, très très chaud. Bon là, par exemple...
20 points en jeu, du coup.
Ouais, le week-end prochain, Mende est exempt. Ça va permettre un peu d'aérer les têtes. Mais c'est dommage, parce que, tu marques 15 points, mais c'est 3 essais. Donc ça veut dire que tu mets de la qualité. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais bon, c'est vrai qu'il y a trop d'irrégularités. Puis des fois, il y a des passages à vide qui sont énormes et qui pénalisent énormément... C'est cette équipe, et pour finir le match, tu finis à 12 contre 15. Il y a 2 cartons rouges et 1 carton jaune. Donc les 10 dernières minutes, non mais c'est hallucinant.
Est-ce que c'est là qu'ils ont pris les points ou...
Le match était déjà pillé, mais tu peux gratter un bonus offensif, défensif. Donc là, ça te coupe tout. Tu as fini le match à 12 contre 15. Alors c'est vrai que c'est pas l'arbitre, l'arbitre s'est fait copieusement conspuer. Heureusement qu'ils ont tiré le tunnel, parce que ça aurait pu devenir chaud. Mais il a fait des gestes au public, un arbitre vraiment spécial, ça fait mal parce qu'il va y avoir des suspensions, et donc c'est pas pour la suite du championnat. Déjà que tu es l'équipe change tous les week-ends, tu sens qu'il y a des gars qui sont blessés ou qui sont absents, donc c'est pas
perdu
évident, quoi.
Pour perdu, suspension, tout ça, tu peux quand même le balancer au lot, quoi, là, du coup.
Non mais c'est,
tu devrais aller voir les matchs
sans, de l'autre. Non mais sans, tu t'es régalé. Sans trahir de secret, il y avait des joueurs qui étaient en tribune, d'anciens joueurs ou d'autres qui ont leur licence mais qui sont pas prêts. Il y avait des blessés aussi, et donc ils faisaient que de dire feu, donc feu. J'ai compris que feu, ça veut dire un truc, et ils disent feu, c'est il faut déclencher le général. Il n'y en a pas eu, mais on sentait dans les tribunes que j'ai appris quelque chose. Donc si un jour vous êtes dans les tribunes et vous entendez faux, ça veut dire qu'il va y avoir on en rigole, mais c'est vrai que c'est dommage, et j'espère que le club va se maintenir, parce que la promotion d'honneur, on l'a déjà connue il y a quelques années, puisqu'il y a eu ce parcours justement en championnat de France. À l'époque, on était en promotion d'honneur, mais c'est vrai que c'est dommage quand même de voir le rugby tomber en promotion d'honneur.
Allez, avant de parler du match du week-end, le déplacement des féminines à Beaucaire, on va faire une petite pause musicale.
Ah, je pensais ton entrée en jeu en Saint-Privat.
Bon, ce sera vite, vite parlé.
As soon as you're born, they make you feel small. by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Bon, du coup, on va pouvoir parler directement du foot. Alors, il n'y avait pas de match pour la N3 de l'AFL ce week-end. Ça faisait relâche. Mais les hostilités reprennent ce week-end avec la réception de la réserve de Rodez. Donc, pour rappel, l'AFL est 10e avec 16 points. Et la réserve de Rodez est 4e avec 18 points. Donc, 6 places d'écart, mais seulement 2 points de différence entre les deux équipes. Donc une victoire serait plus que bienvenue pour les hommes de Franco Vignola pour y voir un peu plus clair dans ce championnat. Quoi.
Alors rappelle Laurent, 18 ans, justement pour voilà.
Enfin, trop concurrence au volet.
Voilà, pour permettre aux supporters, ceux qui sont dans les starting blocks, un peu comme moi, de pouvoir démarrer la voiture de suite et d'arriver à temps au bien court.
Il faudra faire des choix quand même. Voilà. Parce qu'il y a le handball, il y a le
tour des filles aussi. Tu as raison.
C'est vrai. Donc match,
un gros week-end de sport.
Oui, autant ce week-end il n'y avait rien à domicile. Mais alors, là par contre il y a tout, qui se goupille ensemble.
Non mais Julien, tu as raison. Là aussi il y a eu un début un peu compliqué avec ce match, donc cette défaite à Agde. Et donc on attend cette première victoire en 2019 contre Rodez pour se donner de l'air vis-à-vis de ce classement où a priori les trois derniers descendent, sauf si. Il n'y a pas beaucoup de descentes et donc il n'y en aura que deux.
Sans Michael de Freitas, on le rappelle, qui s'est fait expulser à Agde.
Donc, et donc qui est automatiquement
suspendu. On disait, si on bat Fabreg, on est troisième.
Tu as raison.
Et là, on regarde les trois derniers.
Et oui.
Le foot, ça va très vite.
Ça va très vite.
Oui, la réserve en R3 a conclu ses matchs aller hier par un match nul à Saint-Privat-des-Vieux, un partout, but de Johan Malo sur pénalty. Alors, je vais en parler rapidement, match un peu particulier puisqu'on s'est retrouvé à 10 contre 11 après 10 minutes. On a pris un carton rouge. Alors tout à l'heure, Patrick, tu parlais de l'arbitre du rugby qui était un peu particulier. Nous aussi, on est tombé sur un phénomène hier. Alors je vais pas trop en parler, on sait jamais si les instances m'écoutent, faudrait pas qu'elles me suspendent. Mais voilà, excès de zèle, quoi. Un petit peu comme au rugby, quoi. Florian Fedel, en qualité de capitaine, est allé demander des explications à l'arbitre. Il lui a mis un carton jaune sans chercher à comprendre. Bah, il lui a parlé, Flo a essayé quand même de comprendre, il a senti qu'il insistait, deuxième jaune rouge, donc après 10 minutes c'était parfait pour attaquer le match, on prend un but vers la demi-heure de jeu, et du coup on égalise au tout début de la deuxième mi-temps donc par Johan Malo sur pénalty, mais c'est vrai que du coup c'était un match un peu particulier, on était chez le dernier, qui joue sa survie en R3, donc ils ont vraiment fait un match de guerrier quoi, avec leur qualité, sur un terrain un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, on va se satisfaire de ce match nul vu les conditions du match. Et dans notre malheur, après le match, on a appris que notre dauphin Pérol avait perdu contre Montpellier Petit Bar. Donc on leur prend un point de plus. Et la réserve de l'OAC qui a aussi fait match nul à domicile contre l'US du Trèfle, qui est l'équipe de Sommières. Donc on garde 6 points d'avance sur la réserve d'Alès. Donc on va dire que
c'est le karma, ça. Point d'avance.
Sur la réserve d'Alès, 6.
Ah, la réserve d'Alès,
sur Pérol, 4,
parce que combien de montées alors ? Il y a 2 montées ?
Prochain adversaire.
Ah, d'accord.
Mais voilà. Combien de montées, tu le sais ?
Une.
Une ?
Normalement, une.
D'accord.
Ouais, ouais. Là, il n'y a pas de... Surtout avec encore ces refontes là, avec Toulouse et Montpellier.
Et oui,
là,
parce qu'il y a 6 poules du côté de Montpellier.
Oui, c'est ça.
Et 2 poules, donc il y a 8 montées, quoi.
C'est ça. Donc normalement que...
Que le premier,
que le premier qui monte.
Bon. D'accord.
Espérant que ça continue sur la belle série. Après, voilà, des petits signes comme ça, t'es pas bien, tu vas faire match nul chez le dernier. T'ouvres Foot Occitanie demi-heure après, et tu vois que derrière, ça a perdu. Voilà, des petits signes qui montrent que.
Oui, parce que Pérol, c'est que leur première défaite de la saison. Donc ils ont perdu à domicile contre Montpellier Petit Bar, qui est une belle équipe, puisqu'on les avait affrontés avant les vacances, on avait gagné 2-1 à la 91e. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est vrai que quand on regarde le classement, ben voilà, on est leader. On a perdu qu'une fois, c'était contre Pérol d'ailleurs à la première journée. Puis on finit quand même avec meilleure attaque, meilleure défense.
Une équipe qui vous réussit pas, c'est un privat du coup.
Ouais, c'est vrai, c'est eux qui nous avaient éliminés en coupe. Là hier, on fait un partout. Bon, on ne sait pas ce qui nous attend pour le match retour.
Est-ce qu'il y avait la même grosse équipe que le week-end d'avant?
Ouais, c'était le même groupe que la réception de Bayard, à l'exception de Ivan Adandé et Johan Robert. Étaient remplacés respectivement par donc moi et Nicolas Mosselin.
Nicolas Mosselin et moi.
Pardon, comme j'avais commencé par Ivan Adandé, j'avais dit respectivement. Mais tu as raison. Donc voilà, donc Laurent tout à l'heure disait pourquoi je parle d'Alès qui est troisième, tout simplement parce que c'est notre prochain adversaire. Donc pas ce dimanche, mais dans 15 jours, le 3 février. Donc là aussi, si on gagne contre Alès, on les mettra 9 points et on ferait une bonne opération. En D3 Lozère, l'équipe 3 de la FL a perdu 1-0 à domicile contre Montroda. C'était le seul match de ce championnat D3 Lozère. Ça a permis de mettre enfin ce classement à jour. On avait du mal à le lire depuis le début de la saison avec des équipes qui avaient des matchs en retard, d'autres qui étaient un peu plus à jour. Du coup, Nico, est-ce que tu peux nous dire ce que ça donne pour nos auditeurs ?
Du coup, la FL3 a manqué de coche parce qu'ils sont premiers ex aequo avec Marvejol à 20 points. Donc, du coup, il y aurait eu victoire contre Moroda. On aurait été un peu détaché, mais ça n'a pas été le cas. Donc, suivi du Massegro, 3e, 19 points. Moroda, 17 points, 4e. Le Buisson et la Béantomonès qui se tiennent en 12 points. Badarou, 7e avec 9 points. Le Chastel-Valdo, 8e et 9e avec 7 points. Et Montégoal qui ferme la marche. Avec 5 points.
Finalement, c'est serré ce championnat. Ouais. Je crois que ça fait quelques années qu'il n'y avait pas eu autant d'équipes. Les 4 premières équipes, 3 points d'écart. C'est bien, c'est intéressant.
Là, je vois comment ça se fait que Marvejol avait un point alors que je vois qu'il y a marqué 7 victoires.
Oui, mais il y a 0 match nul.
Ouais, non, mais 3x7, ça fait 22.
Ils ont eu, je sais pas s'ils ont
eu des pénalités.
Par rapport au match justement du Massegro, là, pas allé à
d'accord.
Son terme.
Ok, bon. Voilà l'explication, parce que donc, c'est vrai que...
Pourquoi il y a une pénalité quand le match va pas son terme ?
Après, la commission peut infliger des points...
Parce qu'ils sont partis, ils perdaient, ils n'ont pas demandé à...
Oui, mais comme ils n'ont pas été capables de terminer le match parce qu'ils n'ont pas présenté assez de joueurs, considéré comme une pénalité.
Oui, mais parce qu'ils étaient blessés, c'est pas...
Mais comme
quand une équipe perd...
Nîmes Athlétique dans notre poule en R3...
Et ils n'ont pas eu de points ?
Ils sont venus à 10, ils ont fait semblant d'avoir deux joueurs blessés, et puis après ils en ont laissé un au vestiaire.
Parce que s'ils font ça, c'est justement pour ne pas déclarer forfait et puis pour prendre un point de défaite. Quoi.
Mais surtout que là, la défaite, c'est 0 points.
Il y a une pénalité.
En plus, la défaite, c'est 0 points.
Mais comme Montego, hein, qui est dernier, qui a 5 points, alors qu'ils ont gagné deux fois, ils ont eu un point de pénalité aussi.
Ouais, ils ont fait un forfait aussi.
Ouais. Donc, voilà.
Bon, d'accord, mais c'était pour, c'est pour ça que ça m'a. Ça m'interrogeait quand même, donc c'est bon, vous avez répondu à ma question.
Juste pour revenir sur le match de hier, j'ai 2-3 infos de Ludo. Hein,
pas joué.
Bref, non, j'étais à Boca, pas être partout. du coup, de ce que me dit Ludo hier soir, c'est que voilà, la FL a manqué le coche, la FL a eu les occasions pour mener au score et voire se mettre à l'abri apparemment, hein, donc j'étais pas, je vous relate les propos de Ludo, mais comme il me dit et comme vous savez, voilà, à force de pas marquer, on s'expose et en fin de match on se fait punir et voilà, on se fait punir sur but 1-0 et à partir de là, voilà, le match était plié alors qu'il y avait, d'après les dires de Ludo, la place pour passer, mais ça n'a pas été le cas.
Il y a une question qui agite quand même le football départemental, c'est que si l'AFL finit premier, est-ce qu'elle va faire les barrages ou pas ? Donc ça, l'éternelle question.
L'éternelle avant la fin du championnat.
Voilà. Non, mais, non, mais hormis cette question de calendrier. Bon, vous êtes pas obligé, c'est pas une question de piège, mais vous êtes pas obligé de répondre.
L'éternelle question de l'équipe 3 de l'AFL.
Ils peuvent faire, ils peuvent laisser la place au second.
Ouais.
Je sais pas, est-ce que ça sera accepté par le district ?
C'est comme d'hab. Hein.
Ouais.
De toute façon, le championnat n'est pas joué. Il y a quatre équipes qui vont finir devant.
Tu as raison.
Si la Marvejol aura peut-être la chance de pouvoir jouer ce barrage, s'il y a un barrage ou pas. Quoi.
Ou pas.
Il n'y a rien de fait.
C'est vrai.
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir cette
équipe. Et le Massogro aussi. Et Moroda.
Le championnat Lozère, ça maintient. Allez, on passe à la D2 Garlozère, du coup, et avec donc, le champion en titre de la D3 Lozère, le FSL. Florac qui a gagné 3-0 contre Domessargues qui est dernier au classement et grâce à cette victoire, la première à domicile de la saison, le FSL est 9e avec 9 points. Une victoire qui fait du bien pour Florac là, qui reste en vie dans ce championnat D2. Toujours en D2 mais dans l'autre groupe, le Buisson a été contraint au partage des points à domicile en faisant 2-2 contre la réserve de Nîmes Soleil-Levant. Le Buisson reste leader malgré cette légère contre-performance puisque le Buisson menait 2-0 et ils se sont fait rattraper dans les 20 dernières minutes.
C'était samedi. Ce qui est
encore plus dommage, c'est que les poursuivants avaient fait match nul. Donc ils avaient la chance de pouvoir prendre un petit peu d'avance et ils n'ont pas su s'en saisir, mais ils n'ont pas perdu.
Ils ont 3 points d'avance sur le troisième qui a un match en moins. Donc je ne sais plus qui c'est. Si
c'est l'Anglade.
Le match en moins n'est jamais gagné.
L'Anglade. Oui, oui. C'est l'Anglade qui a un match en retard, et si l'Anglade gagne ce match, ils reviennent égalité avec le Buisson.
C'est jamais gagné, c'est sûr, mais potentiellement. Allez, on passe aux féminines qui se déplaçaient hier à Beaucaire. Résultat 2-2, Nico, le match.
Donc il était un match en retard que Beaucaire se voyait gagner pour jouer en poule haute, mais les matchs en retard n'étant jamais gagnés, Beaucaire n'a pas gagné. Du coup, déplacement donc à Beaucaire, une journée qui devait se jouer le 23 décembre qui a été reportée là. Donc on s'est déplacé à 11 joueuses, tout juste, toujours sans gardienne. Donc le 2-2 est un bon résultat, même un très bon résultat. De toute façon, dans ce championnat, on n'avait plus grand-chose à espérer, hormis en cas de victoire et des résultats favorables. des autres équipes nous concernant dans ce championnat, mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, il nous restera un match à jouer contre Beaucaire encore le week-end prochain pour finir cette première poule avant de passer à la deuxième phase. Du coup, voilà, on est allé là-bas avant tout pour essayer de jouer au football, se faire plaisir, chose qu'on a très bien fait. On rentre très bien dans ce match. D'habitude, c'est notre point faible. On rentre bien dans ce match, on fait jeu égal, voire même plus avec l'équipe adverse, on se crée des occasions franches. Malheureusement, au bout d'une vingtaine de minutes, on prend un but sur corner. Suite à une répétition un peu de corner, voilà, un ballon qui fait 2-3 rebonds dans la surface et qui est dévié malencontreusement par Elsa dans ses propres filets.
C'est votre faiblesse, ça, les corners, non ?
Ouais, c'est notre faiblesse.
Non, 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 j'oserais pas, j'oserais pas. Non, mais. Il y a beaucoup de buts sur corners. Il me semble.
Deux buts sur corners. Voilà. Donc, c'est notre faiblesse, clairement, et ça l'est encore plus depuis qu'on n'a plus de gardienne. C'est vrai que les deux buts qu'on prend, alors, ils ne sont pas à incriminer les joueuses qui se sont dévoilées dans les balles, dans les barres.
Tu me répondras après, mais. Plus de gardienne, mais pas beaucoup de buts encaissés quand même non plus. Hein.
Non. Mais par contre, les buts qu'on encaisse, c'est des buts que voilà. Ben, exactement. Donc le premier, un corner. Voilà, le ballon rebondit 2-3 fois dans la surface, entre la surface, les 6 mètres. Voilà. Donc on ne sait pas trop qui doit y aller, le gardien, la gardienne, la joueuse. Donc la gardienne qui est une joueuse de champ d'habitude. Peut-être qu'on aurait eu une vraie gardienne. Donc Karima qu'on avait. Voilà. Elle ne serait pas posé de questions, il serait allé. Sur le second corner aussi, pareil. Hein, c'était Mathilde dans les barres. Elle touche ce ballon. Peut-être que Karima, qui a encore plus de taille, aurait pu le dévier. Mais bon,
c'est un appel du pied que tu fais pour que Karima.
Non, Karima est définitivement partie. Donc on s'adapte et c'est comme ça. Voilà. Par contre, s'il y a des filles qui veulent venir tester le foot. Que ce soit sur
le terrain, buts,
que
sur le Elsa
et les postes de gardien, on prend. Hein, voilà, non, mais des filles qui peuvent jouer dans les bars.
C'est attraqué par Elsa, merci.
Dans d'autres clubs qui veulent venir tester ce niveau, ça peut être intéressant. Enfin bref, voilà, je reviens sur le match. Donc on perd 1-0 au bout de 20 minutes sur ce corner. On reste bien dans le match, on réagit assez rapidement au bout de 10 minutes. Coup de pied arrêté pour nous sur. Ballon, ligne de touche, 40 mètres sur le côté, tiré par Vanessa Verrier. Après un ou deux rebonds dans la surface, Chloé Cressant reprend en pivot du pied gauche et marque un joli but, son premier but d'ailleurs de la saison, qui nous permet de revenir à un partout. Et dans la foulée, 5-10 minutes après, corner pour nous, très bien tiré par Léa Tabar, repris de la tête par Flo Julien, alias Ayayou, c'est son nouveau surnom depuis hier. Les filles seront contentes, je leur fais une petite dédicace. De là, on mène 2-1, on rentre à la mi-temps à 2-1 au vestiaire. Deuxième mi-temps, on a un peu plus subi, mais c'était pas non plus une attaque défense. Voilà, on procédait un peu plus par contre, on jouait un peu moins au ballon, mais on a été dangereux. On a l'occasion, de mener 3-1, on la manque malheureusement, et on prend un but voilà, un quart d'heure du terme, à un moment donné où Shirley qui a une petite fracture au nez voilà, est sorti sur blessure, 5 minutes le temps de faire soigner avant de re-rentrer. Voilà, pendant ces 5 minutes où on est à 10, il y a un corner, on a un peu de mal à se resituer et donc on prend ce deuxième but. Voilà, sur le dernier quart d'heure, Mathilde nous sort deux arrêts d'affilée pour nous permettre de maintenir ce résultat à 2-2. Et dans
Charlie a continué à jouer ?
Oui, elle est re-rentrée 2-3 minutes après.
Chapeau.
Voilà. On a eu un peu peur parce que. Commencer limite à tourner de l'œil, et après 5 minutes, ça allait un peu mieux. Et puis le soir, en rentrant, quand même, elle est quand même allée aux urgences. Et j'ai reçu un message après me disant qu'elle avait une petite fracture, rien de bien grave, mais que voilà.
Petit fissure.
Voilà, donc j'attends des nouvelles, mais de toute façon, tant que ça n'a pas dégonflé, les trucs comme ça, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a. Du coup, voilà, et pour finir, sur les 3-4 dernières minutes, on se procure 4 ou 5 corners d'affilée. On pousse. Malheureusement, ben, on ne marque pas. Mais la victoire aurait été méritée aussi. Enfin, le match nul reflète aussi le match. Mais en tout cas, une très belle prestation des filles, très solidaire, très bagarreuse. Et puis surtout, on s'est remis à jouer au football, chose qui nous faisait défaut depuis 2-3 matchs. Et voilà, moi du bord, j'ai vraiment pris du plaisir, que ce soit dans l'intensité, dans ce qu'ont proposé les filles. Et du coup, voilà, c'est de bon augure pour la suite. À noter qu'on est sur une série de 4 matchs sans défaite. C'est notre plus grosse série en cours. Donc je félicite les filles pour ça. Et donc on aura droit à un remake contre Beaucaire le week-end prochain, puisque c'est eux qui se déplacent vers nous pour clôturer cette première phase de championnat de R2 féminine.
Superbe résumé.
Ouais. Bon, voilà pour le foot.
Donc pour résumer, ouais. Des buts contre son camp, des nez cassés.
Mais venez quand même jouer au foot.
Venez au foot.
Non. Bon, Léa, il faut que tu arrêtes ton pole dance, c'est que tu te mettes au foot.
Cherche une gardienne.
Non, mais sans rire, j'en parlais avec.
Non, mais on rit pas.
Messo, qui est coach avec moi, donc des féminines. Enfin, quand je vois les autres équipes contre qui on va jouer, là, c'était Beaucaire. Enfin, t'aurais vu le sketch entre les joueuses, quoi. S'insulter, un machin, à la fin, sortir des vestiaires, se taper partout.
tout. Les Bayargues, c'est pareil. Enfin, ils nous gagnaient 3-4-0. Ils commencent à s'insulter sur le terrain alors qu'ils nous gagnent 4-0. Mais ce qu'on disait avec Messot, heureusement qu'on n'a pas des filles comme ça parce que je ne comprends pas comment ils font les autres. C'est un sketch. Tu vas au cirque le dimanche après-midi. Enfin,
c'est voilà. Un commentaire.
Exactement. Ouais.
Allez, ben voilà, c'est tout pour le foot. On va passer au prono. Alors, il y a eu un point de marqué. Alors, personne autour de cette table n'a marqué, puisque c'est Mathilde qui a marqué un point et qui, du coup, grâce à ce point, ben, rejoint le duo de tête, le trio de tête même, qui était composé de Patrick, Nico et moi. On a donc maintenant un quatuor de tête.
Et on a surtout deux personnes un peu larguées. Ouais.
Ouais. C'est vrai que Ludo a un point et Laurent deux points, c'est jouable. Ouais. Alors, Laurent, c'est comme le MVL, il est à la fois pas trop loin de la descente et pas trop loin de la
tête. À la 94e, j'avais un point quand même, puisque j'avais dit 1-1.
Par contre, s'il y avait s'il y avait eu 2 minutes additionnelles de plus, il aurait pu avoir 3. Hein. Je gagnais.
Oui, puisque Patrick t'avait dit un
point. Oui, c'est ça.
Moussa Dembélé, 94e, il en décide autrement. Il a un point à Mathilde.
C'est ça.
Imagine le nombre de gens qui ont perdu de l'argent entre la 94 et la 95.
C'est clair.
Mathilde a qui tout réussi aujourd'hui en ce moment, quand même pronostic. Elle est numéro 10 sur le terrain en ce moment. Je ne l'ai pas dit ça. Elle est passée numéro 10. Elle joue pas mal. Elle est en canne en ce début d'année.
Du coup, pas de match incroyable à pronostiquer. Alors j'ai hésité avec un Nice-Nîmes, mais je me suis dit que j'allais me faire insulter autour de la table. Donc. Avec la victoire de Marseille hier à Caen et la belle deuxième place de Lille, j'ai décidé qu'on allait parier sur OM Lille, l'affiche de vendredi soir, 20h45.
Et la signature prochaine de Balotelli.
Ah oui, le fameux.
On va te le faucher.
En 2024, non?
Non, Garcia espère qu'il va jouer contre Lille, donc il va falloir que ce soit rapide. Hein.
Il faudrait qu'il commence à se bouger, parce que quand tu calcules, ça fait 2 mois cet été, 3 semaines là. S'ils n'ont pas réussi en 2 mois et 3 semaines, des fois tu te dis comment
ils vont faire. Tiens raison.
Du coup, le prono, on va commencer avec Patrick.
Marseille-Lille 3-1.
Pour Lille, bien sûr.
Non, pour Marseille.
Nico.
Ah, mais on peut pas parier là,
c'est le cœur. Hein.
Ouais, c'est le cœur qui a parlé Patrick.
Et oui.
Il y avait pas grand-chose.
Oh, je t'ai laissé de la marge, c'est pour ça que j'ai dit un peu gros pour te laisser quand même des possibilités.
De toute façon, faut qu'on gagne.
Et oui, si on veut finir second, il faut gagner.
Bon, de toute façon, on va prendre des pions, donc allez 3-2 pour l'OM.
OK. Moi, je vais dire
on a pas d'attaquant, mais on marque quand même 3 buts, c'est ambitieux. Mais il y aura Balotelli d'ici.
Voilà, exactement. Un triplé de Balotelli. on marque 2 points. Hein. S'il y a triplé de Balotelli, on marque 2 points.
Moi, je vais dire 2-1 pour Lille.
Alors moi, comme je suis un garçon un peu plus raisonnable que vous, je vais dire 1-0 pour Lille.
1-0 pour Lille.
Et j'espère perdre, j'espère me tromper. Mais
1-0 pour
à un point.
Ah oui. Ah oui, t'es vraiment plus raisonnable que les autres.
Et oui, je suis raisonnable.
Alors, j'ai pas les pronos de Mathilde et Ludo. S'ils nous arrivent avant la fin de l'émission, je les dirai. Du coup, c'est bon pour l'actu lausérienne.
Ah, j'ai reçu
quelque chose.
J'ai reçu le pronostic de Ludo. Ouais. Il mise 5-0 pour Lille. Et Mathilde. Ah, mais Mathilde vient de répondre 6-1 pour Lille. Voilà. Allez, on peut passer à la suite.
Allez, on passe à l'actu nationale. Et au moment préféré de l'émission pour Nico. Nico, c'est le point biathlon.
On commence
avec ça. Ah oui, direct. Là, je te mets. Comme ça, on est sûr de le faire. Je te mets en avant.
Non, mais...
Et vas-y.
Biathlon qui a été suivi par Patrick aussi ce week-end.
Oui. C'est le relais, intéresse de le relais féminin. Ouais.
Ah, bien sûr, le féminin. Il n'y a pas. Allez.
Et qui a été le point d'orgue du biathlon français ce week-end. Donc déjà, on va revenir sur les mass start. Chez les garçons, une place sur le podium pour Fillon Maillet qui finit 3e, suivi de Fourcade 4e. Chez les filles, la meilleure position, c'est Anaïs Bescon qui fait un top 10 et qui finit 9e. Sur les sprints, que ce soit garçon ou fille, on n'a pas obtenu de podium. Fourcade fait 4, Anaïs Bescon fait 5. Et ce qui est intéressant arrive maintenant, donc le relais homme français qui finit 3e derrière la Norvège et l'Allemagne, alors avec 9 fautes au tir, ce qui ne permet pas d'espérer une victoire. Et puis un relais un peu particulier parce que Martin Fourcade, qui d'habitude est finisseur en étant le meilleur français, est passé second en position de relayeur et le relais a été conclu par Simon Destieu, qui est un des Français les plus en forme du moment, d'où ce changement comparé à d'habitude. Et donc, les filles qui ont gagné, ça n'était pas arrivé depuis 25 ans, il me semble, si je ne me trompe pas.
25 ans dans ce coin d'Allemagne, là, puisque la compétition ce week-end était en Allemagne. Donc voilà, ça faisait 25 ans qu'un relais féminin français n'avait pas gagné à Ruhpolding, mais ça ne faisait pas 25 ans qu'un relais français avait gagné. C'est 25 ans sur ce site allemand.
Du coup, voilà, donc les Françaises premières, donc là, ce coup-ci, devant la Norvège et l'Allemagne, à l'inverse du classement des garçons, voilà, avec 4 euros de tir. Meilleur ratio de ce relais féminin et qui permet aux filles, donc le relais composé de Chevalier, de Bescon, de Brezaz et de la dernière
jeune, de Simon,
de Simon, voilà, qui revient avec une médaille d'or de Ruhpolding. À noter que Anaïs Chevalier, à l'image des garçons, conclut le relais féminin, alors que c'est une jeune dame qu'on n'avait pas trop entendu parler les années précédentes qui est en train d'exploser. Et par rapport à son début de saison, c'est elle qui a eu la lourde tâche de terminer ce relais et qui l'a bien fait.
Et en tête du début à la fin, ce qui est quand même une remarquable performance de cette équipe féminine.
Ouais, ben alors moi, pour changer de sujet, juste j'ai regardé le Made in France à la réunion que nous avaient parlé nos invités de Lozère Sport Nature. Je vous invite à le regarder. Il y a de très beaux paysages, bien sûr. Puis on sent vraiment les difficultés et la souffrance qu'ont eu droit à ces sportifs, parce que là, ce sont des vrais sportifs. Quoi. Les mecs qui font ça, je peux vous garantir que c'est impressionnant. Alors, ils nous l'avaient raconté l'autre fois, mais quand on voit les images, c'est vraiment chouette. Quoi. Voilà. Donc, si vous pouvez le regarder en replay ou sur l'équipe 21, je pense qu'ils vont le repasser. Ils le passent. Régulièrement, alors.
Sur leur site internet, il doit être accessible. Ouais. Un mot pour finir l'actu nationale sur le mondial de hand. Ça se passe bien pour l'équipe de France. Il y a eu un début un peu poussif et puis montée en puissance entre la victoire de l'Espagne et l'Islande hier.
Ouais, samedi contre l'Espagne, il y a eu un match énorme. Deux équipes vraiment auraient pu basculer d'un côté ou de l'autre. Et on se régale contre l'Allemagne. Déjà, on avait vu un superbe match là contre l'Espagne. Et puis mercredi, bon, c'est pas sûr qui compte, mais. Il y a un match contre la Croatie, s'il est déterminant pour aller en demi-finale, là aussi il y aura une énorme performance. Mmh. Et avec des joueurs, des jeunes qui explosent, qui rentrent, là, je pense au fils de Richardson, mmh. qui n'était pas dans le groupe au début du mondial, qui a remplacé un joueur là, le dernier match de la première phase, et qui est totalement hallucinant et qui est le digne héritier de son père. Et c'est vrai que c'est interchangeable dans cette équipe, et il y a vraiment de la qualité à tous les postes. Et
Vincent Gérard, monstrueux.
Ouais, monstrueux.
Monstrueux, Vincent Gérard.
Qui a pris un ballon dans la tête, mais bon.
Deux buts marqués.
Et un poteau.
Oui. Ouais.
Puisque le troisième, il devait marquer, et boum, ça a tiré sur le poteau.
En deux minutes.
Ouais.
Non, ils avaient sorti le goal.
Ils avaient sorti le goal parce qu'ils étaient.
Mais si tu veux, t'as toute l'équipe qui revient.
Ils n'ont pas sorti l'arrêt de Ruffier d'hier, en fait.
Ouais.
Ils n'ont pas fait comme Ruffier, c'est vrai.
Et on parlait tout à l'heure de la solidité défensive des filles du MGC, mais le premier quart d'heure hier contre l'Islande, aucun but encaissé.
Ouais, 6-0 d'entrée.
Aucun but encaissé.
Après, tu déroules.
Ils ont plus que déroulé. Prochain match, là, mercredi, avant les demi-finales, puisque.
Oui.
Voilà, ils sont en demi-finale à 99,99%.
Oui, il faudrait un cataclysme pour pas y être.
Dernier truc un petit peu qu'on peut parler, l'élimination de Federer de l'Open d'Australie, qui du coup, dans la foule, conférence de presse, a annoncé sa participation à Roland-Garros. Et là, la grosse info, quoi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Federer à Roland-Garros.
Oui, achetez vos places pour ceux qui l'adorent, parce que je pense que ça serait en principe son dernier tour d'honneur dans ce tournoi sur terre battue à 37 ans. C'est vrai qu'il Il vit ses dernières heures de champion légendaire.
Messieurs, d'autres choses à rajouter sur l'actu nationale? On a fait le tour.
Non, j'ai reçu un SMS de Mathilde qui dit 2-0 pour Lille.
2-0 pour Lille.
Ah, le change finalement.
Elle va changer finalement.
Elle dit plus 5-1. Ok, ben voilà, ben écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu.
Ouais. Bonne semaine. Merci à Léa pour la technique aussi.
Ouais. Merci, merci à vous. Merci à toi.
Allez, à bientôt.
Allez,
bye bye.
Ciao. Ciao. C'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, je vous ai remarqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.